France Inter.
J'emporterai le feu, c'est que je continuerai à mener cette espèce de combat pour la liberté, pour l'écriture, pour une forme d'émancipation. J'emporte aussi la soif de revanche, la colère. Le feu vous réchauffe et il vous brûle. Il est la perpétuation. Donc j'aime beaucoup cette idée-là.
Je dis souvent que l'écriture, c'est la conscience. Par contre, le dessin, c'est l'inconscience. Il faut aller chercher au fond de soi-même des traits, des formes, des ombres. Et j'aime bien ces deux langages qui s'affrontent, qui font appel à des émotions très différentes de la part du lecteur.
Leïla Slimani conclut sa trilogie sur l'histoire de sa famille au Maroc avec un troisième volume, « J'emporterai le feu » chez Gallimard. Son enfance et son adolescence, du Maroc jusqu'à son arrivée à Paris, sont en pleine lumière, bercées de rayons de fiction. « J'emporterai le feu » conclut une fresque familiale entre le Maroc et la France sur trois générations. L'injustice, la soif de liberté, la nécessité d'être soi dans un pays qui ne le permet pas toujours. Cette saga continue de séduire les lecteurs. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Votre roman familial est en tête des ventes. Ce sont 6 années de travail. Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que c'est une consolation? Est-ce que c'est un honneur d'être autant lu?
Ah, un honneur, c'est sûr. C'est un bonheur aussi, surtout. C'est d'autant plus un bonheur qu'en fait le livre continue à vivre à partir du moment où il rencontre des lecteurs qui lui donnent un autre éclairage, un autre sens et qui en fait même pour moi m'apporte beaucoup. Rencontrer des lecteurs dans des librairies qui ne sont pas forcément d'ailleurs des gens venant du Maroc, mais avant-hier j'étais avec des lecteurs qui étaient moldaves, qui étaient d'origine russe, avec une jeune femme brésilienne et qui me parlait du fait que cette saga lui parlait beaucoup, qu'elle s'identifiait à certains des personnages, que ça lui rappelait l'histoire de sa propre famille, donc avoir le sentiment d'avoir touché, grâce à son intimité, quelque chose d'un peu plus universel, c'est une grande joie.
Bienvenue dans le Grand Atelier avec cette règle que vous connaissez, puisque vous êtes déjà venu. L'invité propose de rencontrer quelqu'un qui l'intéresse, en l'occurrence l'auteur et dessinateur franco-suisse Frédéric Pajac, est-ce que je peux dire ça?
Vous pouvez dire ça.
Même si vous habitez Arles.
Oui.
Auteur singulier qui réussit à faire de la littérature avec des mots et des dessins. Il faut lire par exemple Nietzsche au piano ou le tome 10 du Manifeste incertain aux éditions Noir et Blanc, l'histoire de deux émigrés, deux exilés, Malcolm Mallory et Alberto Giacometti. Nous évoquerons aussi le Brass Band. Ça vient de Grande-Bretagne. C'est un ensemble musical composé d'instruments en cuivre. Bientôt, c'est le championnat de France de Brass Band à Metz. Le Paris Brass Band va affronter l'ensemble des Hauts-de-France. Reportage en fin d'émission. 17h07, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
J'ai retrouvé la date, Leïla Slimani. Vous étiez venue en octobre 2020 dans le Grand Atelier avec un masque sur le visage, vous vous souvenez, évoquer le premier volume de votre trilogie, Le Pays des Autres. On découvrait vos grands-parents, ou ceux qu'on imagine être vos grands-parents, puisqu'il y a de la fiction. Votre grand-mère française, appelée dans le roman Mathilde, de s'installer au Maroc, pays de son mari, au début des années 40, et puis vos parents sont apparus, et ils sont là aussi dans J'emporterai le feu, avec leurs filles, Mia et Inès, qui naissent et grandissent, sous nos yeux de lecteurs. Est-ce que raconter pour vous, c'est témoigner, mais c'est aussi s'autoriser des pas de côté, c'est s'autoriser l'imagination, l'invention, c'est jouer du vrai et du faux, peut-être pour mieux rendre compte de ce que vous avez vécu et perçu?
Ah, je n'arriverai pas à imaginer comment on peut raconter sans imagination. Pour moi, la littérature, elle n'a pas du tout un rapport autoritaire à la vérité. Je ne cherche pas en tout cas à dire comment les choses se sont passées. Je ne cherche pas à restaurer le réel ou à faire ce que pourrait faire un avocat ou un policier, c'est-à-dire mener une enquête pour dire « bah oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé ». Je ne peux me reposer que sur l'imagination, en partie sur ma mémoire, mais qui est toujours défaillante, et puis qui est une mémoire qui de toute façon est tellement modelée par mon rapport à la fiction, mon rapport passionnel et obsessionnel à la fiction, qui m'est impossible de raconter l'histoire de ma famille autrement que de manière fictionnelle.
Quand vous travaillez avec le dessin et votre plume sur une biographie, Frédéric Pajac, est-ce qu'il y a aussi des petits pas de côté? Est-ce que vous inventez? Ou il faut une fidélité absolue quand on est Frédéric Pajac?
Il faut une fidélité absolue, oui. Je ne peux pas me permettre des écarts, mais je me permets des écarts dans d'autres parties du texte, parce qu'il y a une partie autobiographique où il y a des écarts.
Oui.
Mais tout ce qui est biographique... Non.
Oui. Il y a quand même le but de faire découvrir quelqu'un ou mieux connaître au lecteur.
Oui. Hein?
D'où votre fidélité à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont écrit.
Je pense qu'il faut être précis, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je m'entendais dire, à savoir que...
Dans le générique?
Oui, ouais. À savoir que l'écriture, c'est la conscience, et c'est vrai que tout ce qui est biographique, strictement, on ne peut pas inventer des choses, quoi. Alors... La vérité n'existe pas, évidemment. Mais en fait, on peut s'en approcher.
Ben oui, la vérité n'existe pas, Leïla Slimani, c'est vrai. Votre mémoire peut vous faire défaut et vous pouvez interpréter ou réinterpréter des années après.
Oui, absolument. Enfin, le roman, en tout cas, qui est donc œuvre de fiction, il est une version du réel. Il n'est que cela, qu'une version. Et puis, par exemple, pour un récit familial, c'est un récit qui est polyphonique. Il y a beaucoup de personnages dans cette saga et chaque scène est racontée toujours à travers le regard d'un personnage. Et cette polyphonie, j'ai tenu du premier tome jusqu'au dernier à continuer cette polyphonie parce qu'elle dit aussi quelque chose de mon propre rapport à la vérité. La même situation est vue de manière extrêmement différente selon les personnages qui la vivent ou qui parfois la subissent. Et donc à la fin, j'ai envie que le lecteur se trouve aussi dans cette situation un peu incertaine, un peu confuse, de voir que les vérités sont instables et peut-être insaisissables, en tout cas jamais absolues.
Leïla Slimani, Frédéric Pajac, on va vous écouter et continuer de dialoguer sur vos métiers et vos pratiques après une chanson de Thuggers, un groupe électro-américain formé à New York il y a 3 ans. Needed your love. Je n'ai jamais eu besoin de ton amour, disent crânement les musiciens de Fuckers, Leïla Slimani, les jeunes filles de votre roman Mia et Inès. Nées dans les années 80 au Maroc, elles veulent de l'amour. Alors elles en reçoivent de leur père, Mehdi, de leur mère, surtout Aïcha, qui est une maman poule, de Fatima, la domestique qui les élève depuis leur premier gémissement jusqu'à l'âge adulte. Enfin, elle ne les élève plus adultes, mais elle est avec eux comme une mère. Et Mia voudrait l'amour des femmes, Inès celui des hommes, mais elles vivent dans un pays plein d'interdits. C'est une des choses que vous racontez, Leïla Slimani. On est bloqué dans ce pays quand on est une jeune fille, quand on est une femme.
Oui, c'est d'autant plus vrai dans l'époque dans laquelle se passe le livre. Le livre se passe dans les années 80-90, donc sous le règne de Hassan II. C'est l'époque qu'on appelait l'époque des années de plomb. Donc ce sont des années de répression, des années extrêmement violentes, où tout le monde se méfie de tout le monde, où il n'y a évidemment pas de liberté d'expression, où il y a une sorte de peur diffuse, la peur des disparitions, la peur de la disgrâce, et où s'installe une sorte d'hypocrisie généralisée, notamment dans le milieu dans lequel vivent les deux jeunes filles, qui est un milieu plutôt bourgeois, qui consiste en réalité à vivre à l'intérieur, dans sa vie privée, les libertés auxquelles on aspire, donc liberté de boire, de s'exprimer, de danser, d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles. Et à l'extérieur, tout ça doit être caché, on doit mentir sur ce qu'on est. Et donc ces deux jeunes filles, en particulier Mia, souffrent terriblement de ça. Elle a l'impression que ses parents sont des hypocrite, des conformistes, et elle ne comprend pas pourquoi rien n'est jamais absolu, pourquoi toutes les vérités sont aussi toujours un peu opportunistes, pourquoi on doit s'adapter au temps. Et elle, quand elle découvre son homosexualité, elle découvre en même temps que cette sexualité-là, elle ne pourra jamais la vivre légalement au Maroc, puisque c'est interdit par la loi et passible de prison.
Il manquait, selon vous, un regard sur le féminin dans ces années-là au Maroc, en littérature ?
Moi, je n'écris jamais en ayant ce genre de pensée théorique. Je pars de quelque chose toujours de très intime.
En tout cas, vous n'avez rien lu dessus ?
Si, j'ai lu des choses dessus, mais je crois qu'en même temps, moi, mais pas seulement moi, hein, y a beaucoup d'autres très très talentueux écrivains marocains qui sont en train d'ouvrir maintenant des friches et des nouveaux, voilà, avec leurs romans, mais pas seulement, parfois avec des romans graphiques aussi, avec des films. On est en train de commencer à parler de ces sujets-là, mais moi en tout cas, ce qui était important pour moi, c'est d'écrire un roman sur le Maroc qui rentre pas dans les codes de ce qu'on attend du roman marocain entre guillemets exotique, forcément social, forcément misérabiliste, qu'on puisse aussi parler du Maroc de cette époque.
Dans un milieu bourgeois.
Voilà, dans un milieu bourgeois, mais qu'on puisse aussi parler d'amour, qu'on puisse parler de sexe, sans avoir toujours non plus la nécessité d'être dans une analyse sociologique des choses, et puis de ne pas écrire, pour être tout à fait honnête, pour faire plaisir à un public occidental qui attend un certain nombre de choses et qui attend qu'on lui donne parfois les caricatures et les clichés qui le rassurent.
Il n'y a aucune caricature, en tout cas on n'en a pas l'impression quand on lit la trilogie, et notamment ce roman qui est plus contemporain, puisque ça va des années 80 aux années 2000. Moi, j'ai vraiment lu un roman sur le féminin, notamment avec cette mère aussi, Aïcha, qui les protège. Vous parlez d'Yiddish Mama, c'est drôle. Elle est gynécologue, alors que votre mère, d'ailleurs, était ORL. Vous travestissez volontairement un peu la réalité. Ne cherchez pas systématiquement Leïla Slimani dans chaque personnage. Elle est la somme de tous ces personnages. Et cette femme, cette gynécologue, voit toute la misère du monde dans son cabinet. Elle est la première à observer l'état réel de son pays.
Oui, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage et avec la plupart des personnages féminins, contrairement aux personnages masculins, ils sont beaucoup plus ancrés, ils sont beaucoup plus terriens, parce que ce sont des personnages qui sont occupés par les choses de la vie quotidienne, et notamment par le corps. Et c'est le cas d'Aïcha, et son mari, Mehdi, se plaint toujours en lui disant « tu ramènes à la maison des germes et des chagrins ». Et c'était le genre de choses que mon père pouvait dire à ma mère. Évidemment, elle amenait des virus et des germes parce qu'elle était en contact avec des malades, mais le fait aussi qu'elle apportait avec elle des récits, les récits de ses malades, de ses patients. Et ses patients se confient à elle, non seulement sur leur pathologie, mais aussi sur leurs chagrins, sur leurs difficultés, sur leurs histoires familiales. Et donc ma mère, et le personnage d'Aïcha aussi, était une sorte de fenêtre ouverte sur un monde qu'on ne connaissait pas, mais j'ai pu percevoir, je pense, les inégalités, l'injustice du monde, le rapport très ambigu qu'on peut avoir avec le corps, c'est-à-dire le rapport d'impuissance aussi, le corps qui apporte de
la jouissance, mais qui fait aussi souffrir, qui nous échappe, qui nous trahit, beaucoup par ma mère. Donc c'était intéressant pour moi d'avoir un personnage de médecin et gynécologue d'autant plus, puisqu'elle est évidemment en prise immédiate avec le corps des femmes et la façon dont, à l'époque, on traitait le corps des femmes.
J'allais dire le corps souvent maltraité.
Absolument.
Et ça, vous ne cachez rien.
Oui, je voulais décrire, comme je le fais souvent dans mes livres, mais des scènes assez crues. Il y a dans le livre des scènes d'accouchement que j'ai décrites de manière très précise et je me suis beaucoup, beaucoup documentée en allant interviewer des gynécologues des années 80-90 et la façon dont, à l'époque, on pratiquait les accouchements. J'ai été vraiment sidérée par la violence qu'on infligeait quand même au corps des femmes. Il y a beaucoup de passages sur la sexualité, sur la ménopause. Donc raconter...
Des avortements.
Oui, raconter les femmes, pas par l'idéologie, pas par la théorie, mais simplement par le corps, parce qu'au fond, j'ai l'impression que toutes les questions qui m'intéressent, qui sont les questions justement des régimes répressifs, du féminisme, de l'immigration, de l'islamisme, sont des questions qui ont trait au corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de nos corps? Qu'est-ce qu'on a fait à nos corps? Comment on détruit la dignité? Comment on empêche aussi aux corps?
Voilà, comment on les domine finalement.
Exactement.
Et toute l'histoire de l'écriture de Leïla Slimani depuis Chanson douce, c'est ça, c'est essayer de comprendre les logiques de domination.
Oui, c'est ça, exactement, les logiques de domination entre les parents et les enfants, entre les vieux et les jeunes, les riches et les pauvres, les occidentaux et ceux qui viennent du sud, toutes les logiques de domination, mais qu'elles soient, j'allais dire, macro, qu'elles soient très, très grandes ou qu'elles soient vraiment toutes petites à l'intérieur du foyer, comme c'est le cas dans Chanson douce ou ici, les logiques de domination, elles peuvent être aussi terribles une fois qu'on a fermé les portes de la maison, ça continue. J'allais dire, ça ne s'arrête jamais.
Et heureusement, la romancière Leïla Slimani est là pour ouvrir les portes et regarder à travers la fenêtre, passer de l'intime à l'universel, etc. Vous avez en face de vous, on le disait tout à l'heure, un auteur qui est particulier, qui s'accompagne du dessin en plus des mots et qui s'intéresse à des artistes, souvent des poètes. Il s'appelle Frédéric Pajac. Et vous teniez à ce qu'il soit là parce que vous m'avez dit « je sens en lui un frère alors qu'on... » On exerce notre métier différemment. Racontez-nous.
Tout à l'heure, Frédéric parlait, on l'entendait parler de conscience et d'inconscience. Et je pense que ce qui me relie à son œuvre est à la frontière entre le conscient et l'inconscient. Il y a des choses, des éléments récurrents dans son œuvre, des thèmes qui sont des choses, qui sont des obsessions pour moi
chagrin.
Aussi. Voilà, le chagrin,
la mélancolie,
la solitude, l'errance dans les grandes villes, la soif d'absolu, l'admiration pour les poètes, l'alcool. L'amitié, le refus d'une certaine familiarité, d'une certaine vulgarité, la nourriture aussi, le fait d'aimer la bonne chair. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre plus inconscient, qui est une sorte de reconnaissance du cœur. Je sais que quand j'ai ouvert pour la première fois un de ces livres, c'est devenu une obsession, que je les ai à chaque fois cherchés, et que parfois aussi, vous voyez, c'est des choses très étranges, c'est magique, les relations qu'on peut avoir comme ça avec des livres. Il n'y a pas très longtemps, cet automne, un jour où il faisait horriblement froid à Paris, où je me sentais très très seule et très triste, je suis entrée dans une librairie et j'ai vu... Chagrin d'amour, donc son avant-dernier, je pense, il était posé là. Et ça a été comme si quelqu'un me disait, mais en fait, ta journée a très 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 mal commencé. Mais voilà, il va. Ouais. Je me souviens que je l'ai pris comme ça et que j'ai marché dans les rues glacées et ça m'a consolée.
Ça, pour moi, c'est pour moi un des plus beaux Pajac. Chagrin d'amour consacré à Apollinaire, monsieur Pajac.
En partie, oui.
En partie.
En partie, ouais. C'est un livre que j'ai fait il y a 25 ans.
Ah oui, il n'est pas d'aujourd'hui,
c'est une réédition,
mais il trône toujours dans ma bibliothèque à une place importante. Vous sauriez dire pourquoi il nous revient comme ça, ce livre? Peut-être que vous aussi, parce ce chagrin d'amour vous a animé longtemps.
Oui, il y a une partie autobiographique, évidemment. Le prétexte, c'était de me souvenir de mon premier chagrin d'amour et puis savoir pourquoi j'en suis pas mort. Il y a des gens qui meurent dans chagrin d'amour. Qui se donne la mort.
Oui, on dit
surtout quand on est jeune.
Ça peut briser le cœur au sens physique du terme.
J'avais 17-18 ans. Donc ça m'a vraiment anéanti, quoi. Ça m'a vraiment anéanti.
Ça va mieux aujourd'hui?
Oui, ça va mieux. Mais, j'espère.
Et le livre vous a aidé quand vous l'avez écrit?
Oui. De toute façon, faire un livre, c'est toujours... c'est un exorcisme, quoi, c'est sûr. Mais j'avais envie de raconter quelque chose de personnel, mais aussi au travers du regard des autres, et notamment Apollinaire, qui était comme un troubadour, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait quand il aimait, il n'était pas aimé, et quand il n'aimait pas, il était aimé. Donc il était toujours dans une insatisfaction totale. C'est-à-dire quand il a, par exemple, son grand amour avec Lou, était dans un seul sens. C'est lui qui aimait Lou et Lou ne le méprisait. Et par contre, il a été amoureux au départ de Madeleine, mais il ne l'aimait pas. Et Madeleine était folle de lui, quoi. Donc c'est les ruses du chagrin d'amour aussi.
Il y a aussi chez vous, Laïla Slimani, des chagrins d'amour. C'est aussi un fil, l'amour, la solitude quand on n'est plus aimé,
oui,
la peur d'aimer.
Oui, beaucoup la solitude, enfin je dis, je crois, à un moment dans le livre, moi je regrette de n'avoir pas assez parlé de l'amour. Je ne crois pas que ce soit un sujet de mes livres, mais je crois que c'est pour ça que j'écris. C'est pour dire de manière détournée que j'aime, que j'ai aimé, que ce sentiment me traverse, m'obsède. Mais je ne sais pas si je sais parler d'amour. Je sais parler du manque d'amour, je sais parler des chagrins d'amour, je sais parler de la quête d'une sorte d'amour non réciproque. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça. Je crois que, par exemple, la trilogie, c'est une sorte de déclaration d'amour à une personne qui n'est plus là, qui est mon père, qui est morte depuis très longtemps. C'est une déclaration d'amour à un pays qui ne m'a pas toujours aimé, qui est le Maroc. Donc c'est beaucoup des déclarations d'amour à des gens qui ne peuvent pas vraiment l'entendre.
Et puis à la France où vous vivez beaucoup.
Oui, tout à fait.
Frédéric Pajac, pourquoi, alors que vous êtes un auteur et qu'on vous lit sans aucun déplaisir, pourquoi vous avez besoin d'associer votre plume au dessin ?
Je ne sais pas, j'ai cherché longtemps une forme, parce que comme j'ai dessiné très tôt, et j'ai écrit très tôt, et je cherchais longtemps une forme que j'ai trouvée finalement à 45 ans, quoi. Mais parce que la bande dessinée ne m'intéressait pas vraiment, je ne trouvais pas que c'était je trouvais que c'était trop théâtral, c'est des dialogues, la bande dessinée, quoi. Et moi, je n'avais pas envie de rentrer dans ce langage-là, et je cherchais quelque chose qui puisse aussi inclure la philosophie, la poésie, et je trouve que dans la bande dessinée, on est dans un genre trop conventionnel, quoi. Il n'y a pas beaucoup de folie dans la bande dessinée, quoi. Il y a des très bonnes bandes dessinées, bien sûr, mais je trouve pas que c'est... Je trouve que c'est un langage que moi je trouve limité, pour moi en tout cas. J'ai fait des tentatives, mais totalement... Tandis que cette forme, écriture, dessin... Et puis moi j'aime bien qu'au fond, je fais des dessins, comme je dis, fait dans un rapport d'inconscience, quoi. Et moi je dessine pendant 2 mois par an, c'est tout. Le reste du temps je dessine pas, et je dessine vraiment dans un état de transe, parce que je dessine 8 dessins par jour. Et puis ces dessins vont quand même influencer le texte, et un peu. Et les dessins se nourrissent aussi un peu de mes lectures, du texte, et surtout de mes voyages, quoi, parce que finalement le Manifeste incertain, là c'est le 10e volume, mais c'est un immense voyage dans le monde entier, puisque je suis allé sur tous les continents.
Oui, vous êtes un voyageur, oui. Et un amoureux des poètes. Laïla Slimani, vous m'avez dit en arrivant, j'ai tous les Manifestes incertains, c'est-à-dire que là c'est le 10e, hein, avec Malcolm Lowry, dont vous traitez la biographie, et puis le sculpteur Giacometti. Pourquoi vous avez tous les Manifestes incertain, et surtout, pour l'auditeur qui ne sait pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que le Manifeste incertain, ce volume-là, un de ces volumes que j'ai entre les mains?
Justement, ce qui est beau, c'est que c'est assez difficile à définir. C'est un objet, oui, tout à fait unique, original. C'est à la fois, vous le disiez, du dessin, ce sont des textes, donc souvent des personnages qui sont des personnes connues. Alors ça peut être des peintres, il y a Van Gogh, des poètes, Marina Tsvetaeva, avec des éléments biographiques, beaucoup quand même de citations. On entend leur voix, oui. On entend les lettres qu'ils ont écrites, donc il y a quand même une plongée assez érudite dans leur correspondance, dans leurs journaux intimes, et en même temps Frédéric Pajac aussi qui parle de lui, donc des petits passages autobiographiques. Donc c'est ça, c'est une sorte de moment que vous vivez avec lui. Moi j'adore, c'est comme, vous savez, c'est comme le plaisir d'aller seul au cinéma. J'ai mon Manifeste incertain et je suis chez moi, je peux le construire, le lire comme je veux. On peut s'arrêter sur un passage, c'est très libre, en fait. L'objet lui-même est tellement libre qu'il invite aussi à une lecture qui est assez libre. On s'arrête quelque part, puis on a envie après de creuser sur finalement ce poète ou ce peintre. Donc voilà, c'est un objet de liberté et qui donne au lecteur un sentiment comme ça de très grande liberté, un sentiment d'absolu.
Ça fait plaisir de vous entendre tous les deux, Laïla Slimani et Frédéric Pajac, parce qu'il y a une sorte de jouissance à parler autant de l'écriture que de la lecture. Et Kamel Daoud, notre dernier Goncourt 2024 avec Ouris, fait dans cet extrait la même sorte d'apologie de l'écriture et de la lecture.
L'écriture n'est jamais réservée à une élite, sous une forme ou une autre. La bitlit, le simple post sur Facebook maintenant, le Dazibao, le journal, l'Eliade. L'écriture est toujours là, elle nous a accompagnés. C'est notre maîtrise de l'éternité, c'est notre maîtrise du temps. Donc lire est essentiel parce que cela délivre, cela perpétue, cela vous sauve. Et je le dis souvent, vous savez, il suffit de faire rencontrer trois choses et on a un roman. Un voyageur, la nuit et un feu. Et automatiquement, il y a quelqu'un qui raconte. Et quand vous êtes en prison, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez. Quand vous êtes amoureux, fou et adolescent, vous écrivez. Quand vous êtes dépossédé de tout, vous écrivez. L'écriture est sacrée, Paul.
L'écriture est sacrée et on écrit partout quand on a tout perdu. Ça m'a fait penser à votre père, au père du livre, bien sûr, Mehdi, qui est en prison, qui, comme votre père, était banquier. Et des méchants, des salauds l'ont accusé de je ne sais même pas quoi d'ailleurs. En tout cas, il s'est retrouvé dans une geôle et en sortant, il est mort peu de temps après. Est-ce qu'il a écrit votre père, comme le dit à l'instant Daoud?
Oui, oui, il a essayé d'écrire. Moi, je partage ce que dit Kamel, mais j'ajouterai autre chose. Moi, je pense que l'écriture et la lecture, elles peuvent sauver. Mais elles peuvent aussi faire du mal. Je pense que la lecture, la fiction, ça peut être aussi une vallée de brume dans laquelle on se perd, que à force de vivre dans les livres, avec les livres, pour les livres, par moments, on se retrouve aussi à la frontière de la folie.
L'écriture... Oui, vous en parlez souvent, il y a une sorte d'attraction qui vous fait peur.
Oui, et puis il y a une phrase très très belle, d'ailleurs dans le dernier Manifeste incertain, je crois que c'est Giacometti qui dit « Je ne sais pas si je fais ce que je fais pour le faire ou pour savoir pourquoi je ne le fais pas ». Je pense que c'est un peu la même chose quand on écrit, cette phrase elle m'a marquée, je pense que c'est aussi l'apprentissage d'un échec perpétuel. Donc il y a aussi quelque chose de profondément... Oui, je sais pas, mélancolique, frustrant, quelque chose de gris aussi dans l'écriture. Moi, je n'aime pas c'est pas que je n'aime pas, mais je trouve que c'est incomplet ce discours qui est toujours un discours très idéaliste et merveilleux et ça émancipe et ça sauve.
Oui, pour
ça
vous, c'est pas votre
pour
réalité.
Pour moi, ça n'est pas que ça, non.
Frédéric Pajac, une réaction? Autant au propos de Laïla Slimani que de Daoud.
Je voulais dire une chose sur parce que j'ai terminé son livre Leïla, je l'ai terminé aujourd'hui ce matin
et j'emporterai le feu.
Oui, c'était vraiment c'était pour moi un étonnement total et surtout parce que je connaissais pas son écriture et surtout j'ai trouvé que c'était une écriture vraiment féminine.
Ah.
Pas féministe, mais féminine, et très féministe. C'est-à-dire que son point de vue est toujours... un homme ne peut pas écrire ça, c'est pas possible. Il ne peut pas écrire que ce soit le chapitre sur la grossesse, sur l'accouchement, sur aussi le rapport des deux filles à leur père. C'est vraiment des filles, c'est un langage de femme, c'est pas un langage d'homme. Mmh. Et ça m'a vraiment... j'ai pas de comparaison possible, parce que même des femmes que j'admire, comme Carson Maculers ou Flannery O'Connor, par exemple, pour moi, n'écrivent pas comme des femmes. Il n'y a pas cette spécificité, quoi.
On va faire réagir, et vous compléterez, si vous le voulez bien, Laïla Slimani, donc, dans un instant, faire réagir, Laïla, à ce que vous venez de dire, écriture féminine ou pas, parce que je voudrais qu'on écoute là, une chanson de Donna Summer. D'une part, parce que Laïla Slimani, c'est quelqu'un qui aime la fête. Hein, vous nous le dites souvent. Au micro, que ça vous est très agréable le soir, après l'écriture, la journée, les enfants, le mari, d'aller vous éclater. Et les jeunes filles dont il est question aiment aussi danser, découvrent la danse, c'est quand même possible à certains endroits. Le soir, dans une boîte, enfin pas dans une boîte, dans une fête, il y a du Donna Summer, ça vous va?
Oui, ça me va très bien, bien sûr.
Walking by
Voilà, Donna Summer, Bad Girls, on a un petit peu dansé et puis on a continué de parler. Moi, je voudrais vous poser la question de cette écriture féminine. Comment ça vous parle, ce que vient de dire le lecteur Frédéric Pajac ?
Non, je trouve ça intéressant parce que je crois aussi, et parce qu'il parlait aussi de Carson McCullers et Flannery O'Connor, je suis assez d'accord avec lui qu'elles ont des écritures qu'on pourrait pas ou difficilement qualifier de féminines, mais peut-être aussi parce que dans l'époque que nous sommes en train de vivre, les femmes écrivains s'autorisent peut-être plus à écrire avec justement ce qu'elles sont, à faire du féminin à la fois la matière et le sujet de notre écriture. Je crois qu'aujourd'hui on s'autorise à écrire d'une certaine façon avec notre corps. On n'a plus besoin de prouver quelque chose dans une sorte de landerneau d'écriture masculine où on serait une exception. Peut-être que c'est lié à ça, que ces sujets féminins, moi je me souviens quand j'ai sorti Chanson douce, des gens qui disaient non mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'un roman sur une nounou, c'est des histoires de bonnes femmes, et de finalement voir qu'en réalité beaucoup de gens se sont intéressés à ce qui était considéré comme de manière un peu condescendante comme des histoires de bonnes femmes, mais qui sont en fait des histoires politiques et des histoires qui concernent tout le monde. Donc oui, un féminin, mais un féminin qui pourrait être universel.
Qu'est-ce qui vous a frappé d'autre, Frédéric Pajac, dans cette lecture ? Vous disiez que vous n'aviez jamais vraiment lu ça.
Non.
Et c'est quoi ce « ça » ?
Alors moi, ce qui m'a vraiment enchanté, je dois dire, c'est que moi j'ai connu le Maroc dans ces années-là, dans les années 80, 85, par là autour, et je connais les mêmes endroits, c'est-à-dire la Casbah des Zoudaya, Rabat, Casablanca, c'est les deux villes, les deux seules villes, je suis jamais allé à Fès ou ailleurs, c'est les deux villes que je connais, donc ça m'a évidemment rappelé beaucoup de souvenirs, et j'ai connu aussi des gens dans un milieu bourgeois. J'ai connu quelqu'un qui travaille au ministère des Finances, qui est un grand collectionneur d'art, le grand collectionneur d'art du Maroc, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Serrini. Et ce qui m'a aussi frappé dans ce livre, c'est le côté politique, mais comme des petites touches très subtiles.
Toujours très discrètement.
Toujours très discrètement, et notamment l'influence des événements internationaux sur le Maroc, sur la vie au Maroc. C'est-à-dire, par exemple, la guerre en Irak, ou les attentats du 11 septembre. Et c'est juste suggéré, mais ça nous replonge complètement dans ces années. Je trouve que c'est très, très, très subtil, ça. Et on est vraiment... On comprend les réactions à vif que ça peut créer, c'est-à-dire des gens qui ont applaudi le 11 septembre et d'autres qui ont évidemment craint la suite des événements. Quoi.
La télé est très importante dans la famille que nous suivons, notamment parce que les petites filles regardent la télé avec le père, qu'elles aiment tant. Les jeunes filles aussi, et quand elles deviennent jeunes filles. Et il y a par exemple la chute du mur de Berlin, et puis il y a ce qui arrive à Salman Rushdie menacé de mort. Et là, l'une des filles se dit « Ah, un écrivain, ça risque sa vie », et progressivement dans sa tête vient l'idée et l'envie d'écrire.
Oui, alors la télévision, c'était très important, et les gens l'ont peut-être oublié, mais l'apparition de la parabole, ça a été une révolution, notamment dans des pays comme le Maroc, où la télévision n'avait qu'une télévision d'État, donc qui était extrêmement contrôlée, et d'un coup, ces antennes paraboliques, que les gens appelaient paradiaboliques, parce que il y avait aussi des gens qui se méfiaient beaucoup, donc elles ont commencé à apparaître sur les balcons, sur les toits de toutes les maisons et de tous les immeubles, et d'un coup, ça a été une ouverture sur le monde absolument extraordinaire, et ça a été aussi l'arrivée de la pop culture dans les foyers marocains. Donc d'un coup, des jeunes femmes qui s'appelaient Kelly, des garçons qui s'appelaient Dylan, et puis Michael Jackson, Madonna, et des jeunes femmes au foyer marocaines qui se retrouvaient face à ces modèles. Donc c'était un choc culturel qui était évidemment amusant à raconter, mais qui a eu aussi des répercussions sur le plan sociologique et idéologique dans un pays comme le Maroc, absolument incroyable, bien avant Internet.
C'était quasi révolutionnaire.
Absolument.
Vous arrivez à Paris et les deux jeunes filles du livre, parce que j'essaie de dire que ce n'est pas vous qui arrivez à Paris, qu'il y a une différence, il y a de la fiction dans la trilogie de Leïla Slimani et dans ses livres en général, et vous êtes seule. Je parlais d'un roman sur le féminin, Frédéric Pajac disait une écriture féminine, et j'ajouterais, si vous le permettez, que c'est aussi un roman sur la solitude du père. Pas seulement quand il se retrouve en prison, la solitude de la mère qui n'arrive pas toujours à dialoguer avec son mari et qui est finalement seule à élever avec Fatima, la domestique, les enfants, et la solitude des filles qui ne se sentent pas vraiment françaises, pas vraiment marocaines, où qu'elles soient, la solitude et l'exil.
Oui, la solitude est un sentiment, je crois, qui est présent dans tous mes livres. C'est un sentiment que je ressens beaucoup, que je dompte et que j'apprivoise parfois. Mais
vous le ressentez encore malgré votre vie de famille, malgré le succès, Leïla Slimani ?
Je dirais jamais la solitude malgré le succès. Je pense que le succès est un très très grand facteur de solitude.
Comme l'écriture.
Parce qu'en fait, vous voyez, vous me dites Leïla Slimani, mais moi je ne sais même pas si je suis Leïla Slimani. Leïla Slimani, c'est quelqu'un d'autre que moi.
Vous êtes qui ?
Je suis moi, je suis Leïla. Leïla Slimani, c'est quelqu'un d'autre. C'est, voilà, c'est sans doute quelqu'un qui doit être assez seul. Je n'ai pas toujours envie d'être Leïla Slimani. Donc non, la solitude est très présente dans le livre. Et effectivement, la solitude de l'exil, qui est une solitude très particulière. Moi, j'aime la solitude qu'on peut ressentir quand on arrive dans une ville étrangère. Quand c'est un choix et qu'on arrive dans cette ville, que d'un coup, on ne comprend pas la langue, qu'on marche dans des rues sans savoir où on va, qu'on
se perd. Ça a été votre cas quand vous êtes arrivé à Lisbonne, où vous vivez toujours ?
Oui, voilà, ouais. Parce que là, c'est autre chose. J'adore voyager, je réponds beaucoup à des sollicitations de voyage juste pour le plaisir justement de me retrouver dans un pays dont je ne parle pas la langue, dont je ne maîtrise pas les codes. J'aime cette solitude-là, mais la solitude de l'exil, quand vous êtes très jeune et que vous arrivez quelque part où on vous enjoint à vous faire une place, à trouver, voilà, à réussir, à trouver un moyen de vous en sortir. Et dans le Paris des années 90, c'était très particulier parce que cette jeune fille, Mia, c'est le moment où pour la première fois de sa vie, elle va se rendre compte que cette France qu'elle connaît, mais elle la connaît dans les livres, elle la connaît dans les films, elle en connaît l'histoire, elle a lu les romans, elle parle la langue, mais en fait ce pays n'est pas le sien, elle ne le connaît pas de manière charnelle, et pour la première fois de sa vie, elle va se rendre compte qu'elle est une arabe. Dans un pays où être une arabe, ça a une certaine signification, des connotations. Il faut se rappeler que les années 90, c'est des années où la manière dont on parle des beurs ou des arabes est quand même... Voilà, parfois très offensante ou très, très dérangeante et violente même.
Bien sûr, ça rejoint ce que vous dites sur l'exil et le sentiment de différence ou de solitude. Ce que vivent Giacometti et Malcolm Lowry, qui sont les personnages dont vous parlez dans ce 10e volume du Manifeste incertain, ce sont des étrangers qui arrivent l'un aux États-Unis puis au Mexique, alors qu'il vient du Canada, c'est Malcolm Lowry, et puis l'autre qui vient de Suisse et qui s'installe dans le quartier Montparnasse, c'est le sculpteur Giacometti.
Pour un étranger, il n'y a rien plus difficile que d'entrer en contact avec des Français, n'est-ce pas ? C'est un mur. Je suis arrivé à Paris, j'étais jusqu'à vers 30, sans connaître un Français. On est un peu là, tout en étant comme dans un parquet ailleurs. En fait, je me sentais très seul. Et puis quand j'ai connu... Par ce que je faisais, je sais, j'ai connu Masson à une exposition, le jour même, j'ai connu une bonne partie de mes amis qui sont encore aujourd'hui. Masson, Bataille, Léris, Desnos et Queneau et beaucoup d'autres. C'est pas? Et du coup, c'est comme si j'avais toujours été là. C'est pas?
Vous pourriez parler comme Giacometti, Laïla Slimani.
Oui, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est très difficile. Alors, je ne sais pas si c'est les Français, mais en tout cas les Parisiens, c'est très très difficile. Vous avez l'impression qu'ils ont leur vie à eux, ils font leur vie. Bon, ils parlent avec vous, puis moi je me souviens de la première fois, par exemple, où j'ai bu un café avec quelqu'un qui savait très bien que j'étais seule, que j'allais passer le week-end seule. Il a regardé sa montre, il a dit « Oh là là, il y a mes parents qui m'attendent, il faut que j'y aille. » Ce qui, pour un Marocain, est absolument impossible. On ne pourrait jamais laisser quelqu'un dont on sait qu'il va dîner tout seul ou passer le week-end tout seul. C'est dans notre culture, dans notre manière de faire, c'est absolument impossible. Mais bon, on apprend à vivre avec
donc
ça.
Donc vous avez eu le cœur lourd.
Oui, oui, je me suis sentie très seule.
Et vous n'aviez pas encore un Frédéric Pajac pour vous consoler.
Exactement.
Frédéric Pajac, elle est belle cette archive avec Giacometti.
Oui, oui, ça me fait penser à une chose, c'est que la plupart des artistes suisses qui sont montés à Paris, comme ils disent, sont retournés immédiatement en Suisse. C'est-à-dire que ça a été... Il y a vraiment un nombre d'artistes suisses que je connais bien et qui ont pas réussi à faire leur trou à Paris, quoi. C'est trop dur, quoi. Et moi, j'aime beaucoup le passage où Mia, votre personnage...
L'une des deux filles,
arrive à Paris, et je trouve que les pages sur Paris, là, moi je les ressens profondément. Enfin, moi je suis né à Paris, mais j'ai pas vécu dans mon enfance, et quand je suis revenu à Paris et j'avais 18 ans, j'ai vécu cette solitude et cette dureté des Parisiens, et puis j'aime bien toutes les descriptions de la nourriture, comment elle se nourrit dans les supermarchés, où elle mange n'importe quoi et tout ça, et où elle se laisse aller, où elle est seule, quoi. C'est très très...
Et, oui, et, puis,
et le
toujours...
portrait de Paris est très dur,
elle
quoi,
est toujours
mais
pour,
très juste.
Elle est toujours
très
pour
juste.
Ses amis, la marocaine.
Oui, hein,
c'est toujours
fait.
La différence. Et ce sont les personnes qui vous intéressent aussi. Vous vous intéressez à ces déracinés très souvent, Frédéric Pajac. On écoute Enchanté, Julia, les Santolines, dans le grand atelier de Laïla Slimani sur France Inter.
Désespérée quand je vois le monde, je me lève et je vois les feuilles tomber. J'ai vu d'en haut que la terre est ronde, que le vent tourne. J'ai plus de montre et plus de temps, je suis désemparée mais je dois avancer. En hiver le temps s'invite à danser, je cours. Avec un félin dans un appartement, au moins ils sont ce que je ressens, mais pas fou. La terre est toujours en mouvement, tu ne pourras plus m'empêcher d'avancer. Moi j'aime quand ça va doucement, je l'avoue. Et tous les jours j'attends qu'il pleuve. Enfin je plonge dans le fleuve.
La soul, le R&B de Enchanté Julia, les Santolines.
Le grand atelier sur France Inter.
Je vous annonçais en début d'émission un sujet sur le brass band, ces formations composées d'instruments à cuivre, qui sont vraiment une institution en Grande-Bretagne et qui sont aussi de plus en plus actives en France. La preuve, il existe un championnat de France qui se déroule bientôt à Metz. Le Paris Brass Band va affronter le Hauts-de-France Brass Band et le vainqueur ira au championnat d'Europe. Je suis allé rencontrer un jeune musicien du Paris Brass Band, c'est Aurélien Roussel. Il a 26 ans, il joue de l'euphonium, c'est un instrument avant qu'il va décrire. Il a fait le Conservatoire de Paris, il a joué dans l'orchestre de la Marine de Toulon et il est à plein temps musicien du Paris Brass Band. Pour gagner sa vie, il donne des cours. Voici Aurélien Roussel et son instrument sous le bras.
Euphonium, ça fait partie de la grande famille des tubas. Donc l'euphonium, c'est un petit tuba, en fait, c'est un tuba qu'on pourrait dire tuba ténor. Si on voulait faire un comparatif par rapport à la famille des cordes, par exemple, ça se rapprocherait du violoncelle.
Pourquoi vous avez choisi cet instrument ?
C'est un instrument qui est très agréable à jouer parce qu'on a une très grande tessiture. On balaye quasiment toute la vie du piano, donc c'est extrêmement polyvalent. Le son également, qui est extrêmement chaleureux, très très doux.
Est-ce qu'il est quelque part dans votre appartement, Aurélien, cet instrument ?
Je peux vous le montrer. Il n'est jamais très loin.
Ah, c'est très beau.
Voilà.
En argent.
Oui, donc c'est plaqué argent, c'est un instrument qui est en laiton en fait.
On dirait un jouet pour enfant.
C'est un jouet pour enfant à 10 000 balles, donc c'est un beau jouet pour enfant, mais oui, c'est un beau jouet.
Je peux me permettre de le porter. Oui, c'est lourd.
Oui, ça fait
5 kilos.
Ça fait environ 5 kilos. Ouais.
Quel compositeur a ou ont écrit pour cet instrument ?
Il y a Strauss qui a écrit des petites parties tuba ténor. Voilà, ce qui est plus connu pour nous, c'est le Bidlow dans les tableaux d'une exposition, les Planètes de Holst. Voilà, c'est des grosses pièces où on joue.
Et aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de compositeurs contemporains qui écrivent pour votre instrument.
C'est la richesse de notre instrument, c'est qu'en fait, il y a une grande partie des compositeurs qui sont encore vivants. Donc, on a un rapport à la musique qui est vachement différent qu'un pianiste ou un violoniste. Voilà, nous, on peut vraiment communiquer avec eux, on se fait écrire des œuvres originales. Alors, les violonistes et les pianistes aussi, mais on travaille avec eux. Enfin, c'est quelque chose de quotidien, quoi.
La formation à laquelle vous appartenez s'appelle donc
Brass Band. C'est une formation qui est composée que d'instruments qui sont coniques, sauf pour les trombones qui ont des instruments, des perces donc cylindriques, que des cuivres et des percussions également. Donc ça représente environ 30 à 35 musiciens.
Brass band, c'est britannique au départ et ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a le brass band français et une compétition en France.
En fait, le brass band, il est né avec le bastion minier. Enfin, chaque mine avait son brass band. Donc, c'est pour ça que le nord de la France a une culture vraiment empreinte des Britanniques. Et dès qu'on descend un petit peu plus en France, en fait, c'est la culture de l'harmonie qui prédomine beaucoup plus. Mais en France, oui, c'est vrai que ça s'est développé assez tard. Quand on voit qu'au Royaume-Uni, il y a des brass bands qui ont bientôt 200 ans, quasiment, nous, ceux qui ont 50 ans, c'est déjà bien. Donc, ouais, les premiers ont commencé à fleurir dans les années 80 à peu près. Et voilà, là, on compte une centaine de brass bands en France.
Vous gagnez pas d'argent avec les brass bands ?
Non, alors le brass band, c'est une association. D'ailleurs, c'est une des conditions pour aller au championnat de France, c'est qu'on doit être une formation amateur. Les formations professionnelles n'ont pas droit de jouer au championnat national de brass band. Donc voilà, on est tous bénévoles dans les associations. Donc c'est ces associations qui, surtout en ce moment, qui, pour faire par exemple un déplacement, à Stavanger pour un championnat d'Europe, c'est minimum 30 ou 40 000 euros. Donc oui, c'est vraiment... on a besoin de financement, quoi.
Aurélien Roussel, qui joue de l'euphonium dans le Paris Brass Band formation de cuivre, vous l'avez compris, qui sera présente au championnat national les 15 et 16 février à Metz. Allez-y si vous le pouvez, il paraît que c'est un moment formidable, extrêmement festif et convivial. Je ne sais pas si on y voit Leïla Slimani. En tout cas, vous allez sur parisbrassband.com et vous étiez en train de me dire, à la fin du reportage, que vous sortiez quasiment de la projection de En Fanfare.
Tout à fait.
Que vous êtes séduite et émue.
Oui, oui, c'est un film que j'ai trouvé vraiment très beau, très, très juste. La relation aussi des deux frères, moi qui suis voilà, quelqu'un qui suis très attaché à mes sœurs et à cette relation très, très particulière qu'on peut avoir entre frères et sœurs, je trouve qu'elle est très bien décrite. Et il y avait beaucoup d'écueils, je trouve, et oui. Il a réussi à éviter tous les écueils du pathos, de la caricature, que ce soit sur la région, que ce soit sur la situation sociale,
du populaire, du savant.
C'est vraiment un très joli film. Très, très humain.
Alors, il y a ça comme conseil de Leïla Slimani, c'est toujours à l'affiche, ce sera bientôt au César, et à mon avis, il y aura une belle récolte pour ce film. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'autre, Leïla ?
Alors, moi, je conseille l'adaptation du roman d'Olivier Guèze sur Mengele, la disparition de Joseph Mengele, au théâtre de la Pépinière. Alors, là aussi, casse-gueule difficile, avec ce personnage absolument diabolique, terrible, du médecin d'Auschwitz, et c'est vraiment une adaptation magnifique, où le texte d'Olivier Guèze est très 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 bien mis en valeur. C'est poignant et c'est dur, mais c'est très très beau.
Quand vous venez à Paris, puisque vous habitez Lisbonne, je le disais, vous faites une tournée des cinémas, des théâtres, des librairies ?
Oui, alors le cinéma, moi j'essaye d'y aller pratiquement tous les jours. Et puis même à Lisbonne, j'arrive à aller souvent au cinéma. J'aime beaucoup cette bulle du cinéma, mais j'aime aller au cinéma que seul. Je n'aime pas beaucoup aller au cinéma avec les gens.
C'est le caractère.
Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien vivre pour moi. Et puis quand je suis à Paris, bien sûr, les librairies. J'ai la chance d'avoir maintenant des libraires qui sont des amis, donc ils me font des petites... ils font des choix pour moi. Moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir compter aussi sur des libraires qui vous connaissent.
Ils connaissent vos goûts.
Ouais, qui vous font découvrir aussi des nouvelles choses. Et puis aller au théâtre, bien sûr, quand j'en ai la possibilité. Donc oui.
Et vous rentrez au Portugal avec votre pile de livres.
Voilà, exactement.
Frédéric Pajac, vous avez envie de parler de vous. Et vous avez bien raison. Parce que vous avez créé, il y a 3 ans, si je ne m'abuse, un festival de dessin.
Avec Vera Michalski, oui.
Oui. Et il va avoir lieu en avril, je crois.
Le 12 avril, alors, jusqu'au 11 mai.
Donnez-nous envie d'y aller.
Alors, il faut aimer le dessin ou ne pas l'aimer, c'est-à-dire ne pas le connaître et aimer le découvrir. Et c'est vraiment... Il y a 1500 dessins exposés dans 12 lieux dans Arles. On peut tout faire à pied, donc on peut poser sa voiture ou sortir du train. Et on peut visiter 12 lieux patrimoniaux ou des fondations ou des musées. Les 3 musées de la ville sont occupés par ces expositions. Et il y a des dessinateurs très connus, il y a des dessinateurs contemporains, des dessinateurs. Il y a par exemple Annette Messager, il y a des dessins de Corot, il y a des dessins de Bram Van Velde, il y a des dessins de Jean Moulin, qui était le résistant, qui était dessinateur.
Qu'est-ce qu'il dessinait ?
Il a fait des dessins humoristiques et puis il a fait beaucoup de dessins, des croquis sur le vif et tout ça. Il a aussi illustré des textes et il a fait des gravures et tout ça. Donc il y a beaucoup de surprises. Dans les éditions précédentes, on a présenté les dessins de Victor Hugo, les têtes qui n'avaient jamais été montrées. Là, on présente aussi des estampes japonaises. Il y a la collection d'Antoine de Galbert, qui est une grande collection d'art contemporain et d'art singulier. Il y a de l'art brut, il y a des artistes d'art brut qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de découvertes.
C'est énorme.
Oui, il y a 1500 dessins. Oui, c'est énorme. Il faut 2 jours pour tout voir. Et puis, c'est vraiment dans Arles qu'on se promène. C'est très beau.
C'est votre ville,
Arles. Magnifique. Bah oui.
C'est là que vit Frédéric Pajac. Bah, merci beaucoup. Ça donne envie d'aller à la fois au théâtre et à la Pépinière, c'est à Paris, et d'aller voir ce festival de dessin, assister à ce festival où il y a beaucoup de monde qui présente des dessins, des morts et des vivants. Manifeste incertain, 10, les éditions Noir sur Blanc, c'est Frédéric Pajac également. Il y a aussi Nietzsche au piano qui est très intéressant. Et puis Leïla Slimani, le 3e tome s'appelle J'en porterai le feu. C'est terminé, la fresque familiale. Vous avez commencé quelque chose ?
Ah non, j'ai sorti le livre.
Laissez-moi vivre.
Il y a 2 semaines, non, j'ai envie de me reposer et puis de me remettre à imaginer et à être seule.
Bon repos.
Merci beaucoup.
Lucie Lemarchand a réalisé cette émission. Louise Tempero, Irma Daniche et Virginie Rouzic m'ont aidé à la préparer. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait aujourd'hui à la technique Benjamin Wagon.